Bon ben, bonsoir. Donc, on est reparti pour 3 mois, donc on va essayer de traiter le sujet, qui est toujours un tout petit peu, qui pour moi est un petit peu difficile, je ne vous cacherai pas, pour vous aussi peut-être d'ailleurs, mais peut-être plus dur pour moi que pour vous. Donc, pour vous signaler que quand il faut toujours donner un intitulé de cours quand au mois de mars, un truc comme ça. Et donc c'est au mois de mars que j'ai choisi de parler cette année des maladies psychiatriques, peut-être aussi d'ailleurs des maladies neurologiques, on va voir. Et je me suis posé la question, je dois dire qu'en travaillant, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le premier à le faire, de ce qu'une double perspective à la fois évolutive et développementale pourrait apporter à une meilleure compréhension de l'origine, de l'étiologie de ces maladies, qui reste pour beaucoup d'entre elles totalement obscure, enfin totalement, assez obscure. Incidemment, dès qu'on a affaire à un organe aussi compliqué que le cerveau, j'évite ici le terme de complexe parce que, évidemment, quand on parle complexe, évidemment, c'est un peu polysémique, ça veut dire que c'est un système complexe qui a un sens, mais ça signifie aussi qu'on n'y comprend pas grand-chose, qui a aussi un sens d'ailleurs. Et on a un organe qui, comme vous le savez, on ne peut pas démonter et remonter à la façon d'un pistolet mitrailleur. Et donc, la meilleure façon de le comprendre, c'est encore de comprendre comment il se construit et comment il se met en place, non seulement au cours du développement, quand il s'agit d'un animal, mais au cours de l'évolution, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'évolution, il y a des modifications dans les aires, dans les connexions, et font que finalement, on peut avoir accès à une sorte de compréhension de ce qu'est le cerveau de Homo sapiens. Pour ce qui est du développement, on comprend assez facilement son intérêt pour découvrir l'étiologie de certaines maladies, puisque toute erreur un peu excessive, parce qu'il y a toujours des erreurs, vous allez voir dans la construction d'un cerveau, mais toute erreur un peu excessive dans le processus de fabrication du cerveau, pour s'en tenir au cerveau, parce qu'il n'y a pas que le cerveau, mais pour le cerveau, depuis les étapes les plus précoces, c'est-à-dire l'induction neurale, la formation des compartiments dans le cortex, jusqu'aux périodes périnatales, puis postnatales, qui voient la formation des connexions, la formation des synapses, le développement des cellules gliales, etc., a forcément, voire chez l'adulte, il y a une composante neurodéveloppementale chez l'adulte, on s'en rend compte de plus en plus, à travers la question de la plasticité cérébrale ou des cellules souches. Donc toutes ces questions, tous ces événements ont forcément des conséquences dans le domaine de la pathologie. Ce n'est pas possible autrement. La pathologie n'est pas une entité distincte de la physiologie. La pathologie, c'est une physiologie qui déraille. Ce lien entre développement et pathologie est donc évident d'une certaine façon. Enfin, pour moi, il m'apparaît comme évident. Mais il laisse ouvert un très grand nombre de questions, et en particulier une question essentielle qui est la part de ce qu'on appelle le génétique et l'épigénétique. Et surtout des interactions entre ce qui est génétique et ce qui est épigénétique. Je vais revenir un petit peu sur les définitions. En gros, on peut évidemment définir l'épigénétique comme toutes les modifications réversibles ou irréversibles d'ailleurs, qui affectent toutes les structures, ici du système nerveux, mais évidemment il y a... L'épigénétique n'est pas un truc qui est entièrement spécial au système nerveux, bien entendu, en réponse à des changements de l'environnement. Et il faut inscrire ces modifications à l'intérieur d'une marge de fluctuation autorisée, à l'intérieur desquelles l'animal humain, mais les autres aussi, reste entre guillemets normal. Ici, il faut quand même un petit peu discuter ces histoires d'épigénétique, parce que on parle beaucoup d'épigénétique, on ne sait pas très bien de quoi on parle quand on parle de ça. En fait, si vous regardez l'ADN, l'épigénétique, ça peut être les méthylations de l'ADN. Si vous regardez les protéines qui habillent l'ADN, ça peut être dans la chromatine, ça peut être l'acétylation des histones, la méthylation des histones, l'ubiquitination des histones, les phosphorylations des histones, les ADP-ribosylations des histones, etc. Donc, ça fait beaucoup de choses. Mais en même temps, il y a aussi, au niveau de l'ADN, de façon épigénétique, des modifications irréversibles de l'ADN. C'est-à-dire qu'en réponse à quelque chose qui vient de l'extérieur, un stress ou une information, eh bien, pouvait avoir des éléments de recombinaison sous la forme, en fait, le plus souvent de rétrotransposition. On en a parlé un peu l'année dernière, pour ceux d'entre vous qui étaient là, et qui laissent dans le génome des marques indélébiles. Alors évidemment, si ça s'adresse au génome du système nerveux, ça ne va pas passer dans la lignée germinale. Si ces modifications indélébiles touchent les cellules germinales, eh bien, elles deviennent héréditaires et à ce moment-là, elles cesseront par nature d'être épigénétiques. C'est-à-dire que ce que l'on doit comprendre, ce que j'essaye de comprendre, ce que je pense est en train de se passer aujourd'hui dans les sciences biologiques, c'est que la frontière entre épigénétique et génétique est en train de se brouiller sérieusement. Voilà. Donc il est assez difficile de distinguer de façon stricte aujourd'hui les parts génétiques et épigénétiques. Je ne sais même pas si ça a vraiment un sens quand on va au fond de la question. Et il y a aussi un autre problème, c'est de distinguer ce qui est normal de ce qui est pathologique. C'est une vieille histoire, hein, bien entendu. À quel point, à quel moment frontière, un écart par rapport à la norme devient-il une pathologie? Et qu'est-ce qu'on peut accepter comme, d'une certaine façon, comme marge, si vous voulez, de fluctuation. Hein. Alors, pour ce qui est de l'évolution, qui est l'autre aspect par lequel j'aimerais cette année aborder la question, et son utilité pour comprendre les pathologies qui nous intéressent cette année, la question est un peu plus compliquée. De nombreux chercheurs à qui on peut accorder un certain crédit considèrent que plusieurs maladies psychiatriques et neurologiques sont spécifiquement humaines. Ce qui ouvre sur une approche évolutive, bien entendu, parce qu'à partir de ce moment, si on essaie de comprendre ce qui distingue l'homme du chimpanzé, par exemple, on peut avoir accès à des informations, en particulier sur le plan génétique, qui peuvent nous donner un éclairage sur l'étiologie de ces maladies. Par exemple, on ira regarder qu'est-ce qui différencie l'homme de Homo sapiens de Pan troglodytes ou de Pan paniscus, puisque Pan, comme vous le savez, est notre plus proche cousin aujourd'hui vivant. Hein. On en a eu d'autres, mais ils sont morts, en particulier Néandertal. On peut aussi les chercher, évidemment, dans le génome de Néandertal, mais on ne saura jamais si Néandertal pouvait être schizophrène. Donc, en espérant, à travers ces comparaisons, trouver des clés sur ce propre de l'homme qui est effectivement un petit peu particulier. Alors cette approche que j'appelle évolutive, sur laquelle je vais pas mal insister cette année, parce que ça m'intéresse en fait, on peut la mettre en doute, ne serait-ce parce qu'il est très difficile de dire ce qu'est un singe schizophrène. Alors quand tu as une souris, finalement c'est encore plus compliqué. Et cela présente un grand nombre de difficultés parce qu'à partir de là, les modèles animaux, comment peut-on mettre en place des modèles animaux ou statuer même sur la validité des modèles qui sont aujourd'hui existants? Donc on peut proposer que certaines pathologies ne sont pas spécifiquement humaines, y compris parmi les pathologies que je viens de citer, mais apparaissent chez l'humain uniquement du fait, par exemple, de l'allongement de sa vie. Hein ? La durée moyenne de l'existence de Sapiens a énormément augmenté, donc du coup, il y a des pathologies qui vont apparaître et qui n'apparaîtraient pas si l'homme vivait une vie normale de 40 ans, hein, ce qui ferait beaucoup de morts parmi nous. Donc, moi le premier. C'est le cas de beaucoup de maladies. Par exemple, si vous pensez à la maladie génétique, en l'occurrence, si vous pensez à la maladie de Huntington, si vous pensez à certaines formes de la maladie de Parkinson ou de la maladie d'Alzheimer, ce sont des maladies qui, même si elles sont génétiques et monogéniques, comme c'est dans le cas dans la maladie de Huntington, n'apparaissent pas avant l'âge de 40-45 ans. Donc on ne les verrait pas si nous n'avions pas allongé de façon tout à fait appréciable la durée de moyenne. Hein. Ce n'est pas vrai partout, ce n'est pas vrai sur tous les continents, en tout cas pour les pays qu'on dit développés. Ça a beaucoup augmenté. C'est vrai de ces maladies-là, c'est pas vrai d'autres maladies qui apparaissent beaucoup plus tôt, en particulier par exemple l'autisme, hein, donc clairement c'est une maladie qui se déclare beaucoup plus rapidement autour de la naissance. On ne peut pas tester avant, mais. Et puis par exemple de ce qu'on appelle la schizophrénie, je reviendrai sur ce la schizophrénie qui de nouveau est un abus de langage qui apparaît autour de la période dont les signes en tout cas apparaissent autour de la période prépubertaire, péripubertaire. En effet, les schizophrénies, on ne sait pas très bien ce que c'est. Il y a probablement sous le terme schizophrénie un très grand nombre de maladies diverses. Mais tant qu'on ne sait pas ce que c'est que les schizophrénies, il est difficile de savoir ce qu'on peut mettre sous ce terme. Sauf que, à part évidemment des problèmes comportementaux qui couvrent peut-être un très grand nombre d'origines génétiques ou non génétiques. Donc, si je prends l'exemple, je vais prendre l'hypothèse selon laquelle certaines formes de maladies psychiatriques pourraient être liées à un défaut dans la neurogénèse, hein, ou à un retard dans le déclenchement de ce qu'on appelle les périodes critiques, qui sont des périodes de maturation d'une classe d'interneurones inhibiteurs dans le cortex, au cours de laquelle le cortex est modifié par l'expérience. J'y reviendrai plus tard dans le cours. Hein, on objectera que les souris ont un cortex, ça c'est vrai, qu'elles ont des neurones inhibiteurs et que mon argument ne tient pas. Donc, il faudra alors comprendre ce que la neurogénèse a de spécial chez Sapiens, dans la structure particulière de son cortex. Le nombre élevé de neurones inhibiteurs dans des régions du cortex qui n'existent pas ou à peine, hein, chez la souris ou même chez le singe. Et de toute façon, il est difficile de faire de la génétique chez le singe. Alors, on en restera à la souris. Bref, il faudra croiser la réalité de l'évolution, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des singes, nous ne sommes pas des souris, et celle du développement, et accepter que la période critique du développement d'un système que nous partageons avec la souris, par exemple le système visuel, est d'une certaine façon un modèle pour toutes les périodes critiques, y compris celles qui pourraient être impliquées dans le développement de maladies psychiatriques. Et de ce fait, à supposer l'hypothèse période critique valable, une façon d'étudier l'étiologie de certaines formes de schizophrénie, mais évidemment pas un modèle animal de la schizophrénie. Donc vous voyez que cette question est une question compliquée parce que, évidemment, on ne va pas faire d'expérience chez l'humain, et en même temps, on va faire des expériences chez des animaux et, pour ces maladies qui sont, on peut le penser, des maladies qui sont probablement plus spéciales à l'humain. La question des modèles devient une question évidemment importante. Alors évidemment, il y a les fameuses IPS, hein, dont on a parlé en 2009, pour ceux d'entre vous qui étaient là. Donc on peut prendre un fibroblaste d'un malade et puis on peut le transformer en neurone et puis on peut voir ce que ce neurone a de spécial. Mais enfin, c'est quand même un neurone dans une boîte. Il n'a pas eu le temps de vieillir. Il est tout frais dans sa boîte. Il n'est pas au milieu de toutes les autres cellules et donc ça reste un modèle, même si mon ami Rusty Gage a développé un modèle de schizophrénie en boîte à partir de fibroblastes de schizophrène qu'il a transformé en neurones corticaux en boîte de culture, ça reste quand même quelque chose d'un tout petit peu... Je ne dis pas que c'est inintéressant, hein, mais je pense que de nouveau, ce sont des modèles très très compliqués. Donc à partir de ces considérations un petit peu générales, c'est le premier cours, on peut entrevoir une possibilité d'utiliser ces modèles, je pense, même si c'est peu satisfaisant, pour définir des stratégies pharmacologiques ou génétiques qui pourraient s'appliquer chez nous, chez Sapiens. Ce qui amène à rappeler que l'approche EVO-DEVO, voire EVO-ECO-DEVO, hein, pour tenir compte de l'environnement, que je me propose d'illustrer cette année, n'est pas antagonique ou orthogonale aux approches génétiques, qui consistent à partir de familles, hein, pour repérer des gènes de susceptibilité aux maladies psychiatriques ou neurologiques. Bon, là, on fait l'impasse sur les maladies à 100% monogéniques, comme la chorée d'Huntington. Car même pour des formes de maladies aussi simples, entre guillemets, que la maladie de Parkinson ou l'Alzheimer, il y a des formes génétiques, mais ces formes génétiques, ce qui ne veut pas dire que les gènes mutés étaient tous identifiés, que ces formes génétiques, pour l'instant, si vous voulez, c'est 5% des maladies. C'est-à-dire 95% des formes d'Alzheimer ou des formes de Parkinson sont, comme on dit, sporadiques. Hein, donc, ça veut dire que les gènes n'ont pas été identifiés, s'il y en a. Il y a un problème de développement, comme vous allez le voir, peut très bien se faire sans modification de gènes. Donc, ces formes génétiques avérées, hein, il y en a, je vous dis, 5% dans la maladie de Parkinson, par exemple, 5% dans la maladie d'Alzheimer, sont évidemment extraordinairement utiles parce qu'elles nous donnent une voie d'entrée dans la physiologie. C'est-à-dire que si vous avez identifié un gène pour une forme de maladie de Parkinson, eh bien, vous pouvez faire un gain de fonction, c'est-à-dire le surexprimer dans une souris, ou le retirer chez la souris, ou introduire la mutation chez la souris, et à partir de là, regarder tout ce qui peut se passer au niveau des autres gènes en particulier. On peut chercher tous les gènes co-régulés, on peut regarder tous les phénotypes qui sont associés à ces expériences de perte et de gain de fonction, et donc créer des modèles animaux qui, une fois de plus, valent ce qu'ils valent, mais sont très utiles pour passer à des travaux au niveau moléculaire, cellulaire, physiologique, comportemental, et développer des programmes de recherche de substances pharmacologiques qui pourront peut-être avoir un jour une utilité thérapeutique. Car il est de plus en plus clair que même les généticiens les plus acharnés en sont désormais conscients. Il y a un moment où il faut quitter la génétique pour entrer dans la biologie cellulaire et la physiologie des systèmes. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte du fait que les approches classiques de génétique humaine pourraient se trouver dépassées ou complétées par les approches d'analyse plus générales, par exemple le transcriptome. Mais aujourd'hui, plutôt, en fait, même le séquençage total des ARN d'une région du cerveau ou d'une cellule même prise dans le cerveau, les analyses de type qu'on appelle protéome, glycome, lipidome, métabolome, pharmacome et autres qui ont la queue en ôme. Donc, toutes ces techniques à haut débit qui permettront d'identifier des marqueurs de la maladie, mais généreront des masses et génèrent déjà des masses de données qui sont très compliquées à analyser. J'aime bien ce que dit Sydney Brenner, il dit « low input, high throughput, no output ». Mais il exagère un peu parce qu'il y a du output malgré tout. Donc c'est une complication réelle qui est augmentée par l'hétérogénéité des étiologies dont on a parlé, les effets des traitements, etc. Donc, d'où l'intérêt peut-être de ce qu'on va tenter cette année ensemble, et là j'aurais besoin de l'aide de ceux d'entre vous qui sont plus compétents que moi dans ce domaine, de cibler sur certaines hypothèses qui sont liées à la spécificité de Sapiens en matière de développement et d'évolution et qui permettraient, si l'idée est certaine, et je suis assez enclin à l'adopter, au moins temporairement, je ne sais pas où on en sera dans 3 mois, de donner un sens à ce qui reste aujourd'hui quand même une biologie des marqueurs. Enfin, et bien entendu, j'aurais dû commencer par là, mais toutes ces questions et approches sont surplombées par une interrogation sur la définition des maladies psychiatriques et neurologiques, à commencer par la validité de cette dichotomie, qui est assez récente. Et de fait, si les maladies neurologiques sont apparemment plus faciles à cerner, Parkinson, Alzheimer, chorée de Huntington, les maladies psychiatriques, schizophrénie, dépression, autisme, sont plus difficiles à classer. Et chacun de ces termes, je l'ai déjà dit, je le répète, pourrait en fait recouvrir un grand nombre de maladies différentes. Voilà. Alors, quand j'ai choisi ce sujet, j'étais conscient de toutes ces difficultés, pas vous cacher. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi, pour y voir plus près, dans un domaine qui touche au futur proche des recherches de notre laboratoire. Mais très honnêtement, aujourd'hui, je réalise que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir complètement, d'ici le mois de décembre, le programme que je m'étais fixé. Bon, on continuera l'année prochaine, on verra, mais je l'espère. Et je ne suis pas totalement au clair, de nouveau, donc il s'agit ici pour moi autant de recherche que d'enseignement, mais aussi parce que ça prendra du temps, parce qu'il va falloir revenir sur les bases mêmes de la biologie du développement cérébral et de l'évolution, voire de ce qu'on appelle l'évolution du développement. Et on ne peut pas le faire, ça va prendre du temps, sans vous fournir, mais aussi sans que moi je revienne pour mes propres travaux, sur des données aussi basiques et aussi classiques que l'anatomie, par exemple, du système nerveux. On ne peut pas comprendre la différence entre un homme et un singe si on ne sait déjà pas ce que c'est que l'anatomie du système nerveux, et aussi sur le développement du système nerveux. Donc, Ça va nous éloigner du sujet pour nous y ramener, bien entendu, mais l'échéance dépendra de moi, dépendra aussi de vous et de la façon dont vous aurez la gentillesse de participer à cette discussion. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette année, les préliminaires risquent de nous prendre pas mal de temps. Et puis, vous savez, j'ai toujours tendance à hésiter, à digresser. Bon, ça, vous êtes habitué, hein, c'est fait partie de... Je ne peux pas faire autrement. Donc, ce que je souhaite, cependant, c'est que d'ici le mois de décembre, on ait suffisamment progressé, vous et moi, pour suivre le séminaire de deux jours qui, les 15 et 16 mars 2012, seront donnés sur le thème des maladies neurologiques et psychiatriques, séminaire qui sera co-organisé par Roland Jouvent et Marie-Odile Krebs. Cela étant dit, il est maintenant temps de plonger en nous intéressant à l'origine de nos conceptions actuelles de la division du cortex en nerfs. Vous savez que le cortex est divisé en nerfs. Le cerveau, le cortex, n'est pas un ganglion comme chez les arthropodes, les insectes. Le cortex, le cerveau, chez les vertébrés, et c'est une grande invention des vertébrés, est un plan. Vous voyez ici, par exemple, est-ce que j'ai un machin pour pointer. Vous voyez ici, par exemple, c'est une illustration extrêmement simple. En fait, c'est un plan, et ce plan se replie en tube. C'est ce qu'on appelle le tube nerveux. Avec sur le bord les côtés dorsales, au bas, au centre, le côté ventral, ce qui sera futur ventral dorsal. Et évidemment, vous voyez tout de suite que ce plan va être compartimenté, j'en ai souvent parlé, mais j'y reviendrai, sous l'effet de l'expression localisée de gènes de développement en particulier. C'est-à-dire que ce plan permet d'avoir des coordonnées et chaque petit ensemble, sur ce qui va devenir un échiquier ici, est déterminé par un quadrillage génétique, en fait, c'est un quadrillage génétique du plan, qui fournit à chaque cellule dans ce plan une information sur sa position dans un espace qui est un espace, en fait, un espace à deux dimensions. Non, la troisième dimension se développe plus tard. C'est un point important aussi dans pas mal de pathologies que cette troisième dimension qui se développe plus tard et qui implique non seulement des proliférations, vous allez le voir, mais des migrations de cellules dans le parenchyme cortical, dans la plaque corticale. Donc, j'y reviendrai cette année, et je vais démarrer, si vous voulez, cette affaire de compartiment dans le cortex, en m'appuyant sur un article qui a été publié à l'occasion du centenaire des cartes de Brodmann, un article écrit cette année dernière en 2010 par Zilles et Amunds. Donc comme vous le savez peut-être ou comme vous allez apprendre, Brodmann est 1868-1918 se place dans la tradition des Lumières, hein, Gall et Spurzheim, et à l'attribution des localisations cérébrales et de bosses au crâne aux facultés psychiques. Donc, c'est une percée qui se fait avec Broca et Wernicke Lichtenstein, qui identifie les aires du langage, c'est-à-dire les aires qui sont nécessaires à la production de langage, hein, pour beaucoup des aires motrices, bien entendu, et à la compréhension du langage. C'est une découverte qui se place dans une controverse entre une vision localisatrice et une vision holiste du cortex. Donc le travail de Brodmann est profondément influencé par son darwinisme. Une grande partie de son travail, qui est fait en collaboration à Berlin au début de 1900-1901 avec les laboratoires de Oscar et Cécile Vogt, repose sur l'anatomie comparée entre les primates, humains et non-humains, et les autres espèces des mammifères. Donc, c'est une approche qui le conduit à proposer des subdivisions présentes dans un cortex ancien, ce qu'on appelle le paléocortex et l'archicortex, aujourd'hui qui sont rassemblés sous le terme de allocortex, pour ceux d'entre vous qui veulent aller voir les papiers, et un cortex plus récent, évidemment, le néocortex. Donc, le cortex ancien se caractérise par un nombre de couches inférieures ou supérieures aux 6 couches de notre cortex, par exemple les oiseaux ou les reptiles, ou un cortex à 3 couches. Il existe chez les mammifères une région du cortex qui a encore un cortex à 3 couches, qui est le cortex piriforme, celui qui traite, comme vous le savez, les informations d'ordre olfactif. Donc, sans vouloir entrer excessivement dans les détails, Brodmann propose, sur la base de données de cito-architecture, une division du cortex en aires, donc les aires de Brodmann, évidemment, dont le nombre tourne autour de 50. En fait, le nombre est variable, et Brodmann propose un chiffre sec de 52, même si certaines ne sont pas identifiées, mais probable parce que présente chez d'autres espèces. Alors, donc, on voit tout de suite le présupposé de Brodmann, c'est-à-dire que plus c'est mieux. On ne saurait pas en perdre. Et comme on est au sommet, il faut qu'on en ait, il faut qu'on ait celle des autres plus d'autres. Donc, il nous en faut 52. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment juste, mais en tout cas, c'est un raisonnement qui est fondé sur l'évolutionnisme. Et ce qui est important dans sa classification des aires, à mon avis, les autres primates en ayant environ que 30, hein, 30 aires, c'est que la numérotation, cette numérotation est extrêmement importante parce que elle permet de comparer, évidemment, avec les autres primates. Et c'est aussi une façon de comprendre l'évolution. Apparition ou disparition d'aires ou modification de leur taille respective dans une conception de l'anatomie comparée qui sert à l'époque de preuve de l'évolution. Hein. Et alors là, vous voyez qu'on se rattrape à une grande tradition, au fond, qui est la grande tradition romantique hein, du 18e et du 19e, si vous faites référence à des gens comme Geoffroy Saint-Hilaire ou à Haeckel. Et ça, ça conduit Brodmann à contredire Huxley, le bulldog de Darwin, pour qui il y a moins de différence entre sapiens et les primates qu'entre les primates et les autres mammifères. C'est le principe Pithecometra, principle, et qui est un des premiers symptômes de cette fureur d'être singe qui envahit un nombre grandissant de nos contemporains. Donc, à vrai dire, c'est plutôt une fureur anthropomorphique, c'est-à-dire d'humaniser les singes. Ce n'est pas une fureur d'animaliser l'homme, ce qui aurait au moins un petit intérêt sur le plan des petits plaisirs quotidiens. Quoi. Mais bon, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Bon, je pourrais broder longtemps sur cette question. Si vous voulez, on y reviendra une autre fois. Donc en 1914, Brodmann publie une revue dans laquelle il essaye de réconcilier les données anatomiques avec les observations physiologiques qui sont permises par l'analyse fonctionnelle des lésions cérébrales, hein, grande technologie des lésions. Il résume toutes ses recherches sur les maladies neurologiques et psychiatriques causées par des événements pathologiques se produisant pendant la formation du cortex. Il propose qu'une bonne compréhension de ces maladies demande une bonne connaissance de la structure régionalisée du cortex. Alors, sur une période, au-delà de sa mort, il est mort en 1918 d'une septicémie, de contestation de ses travaux, en particulier des repères anatomiques qui permettent de distinguer les frontières entre les aires. Et là, vous voyez voir que alors, voilà ici, en 1940, ça, c'est la carte de Brodmann avec les différentes aires, vous voyez, aires visuelles primaires, secondaires, les aires du langage, entre guillemets, les aires sensorielles, motrices, etc. Et vous voyez ici, 40 ans plus tard, une carte de Brodmann, enfin, c'est l'école russe, hein, Sarsikov, vous voyez que ce n'est pas très, très différent. Vous voyez que quand même, il y en a une autre, en 1951, qui est beaucoup plus lâche, je dirais, où il n'y a quasiment pas de localisation, enfin, quelques grandes aires comme ça, mais rien d'autre. Et le cas de ces deux auteurs est particulièrement intéressant parce qu'ils étaient d'abord favorables à la théorie de Brodmann de la formation, de la séparation du cortex en aires. Mais ils ont photographié 300 régions du cortex cérébral. Ils les ont collées sur des photos, sur des cartes, comme des cartes de jeu. Hein, et puis ils les ont mélangées, comme on fait quand on joue à la... Je ne sais pas, moi je ne joue pas aux cartes, mais j'ai poker. Hein, et puis ensuite, ils les ont étalées et ils ont gardé uniquement celles pour lesquelles ils pouvaient vraiment voir une distinction entre les aires. Et ils en ont trouvé très très peu. Donc ils ont été incapables en fait, de sélectionner plus qu'une tout petit nombre de cartes sur cette base. Ils en ont conclu que les travaux de Brodmann et de ses successeurs étaient empreints de subjectivité, ce qui est quand même la chose épouvantable. C'est le péché mortel hein, pour un scientifique, comme vous savez. Donc, mais vous voyez, ici, vous avez une assez jolie illustration de la difficulté. Ici, vous avez le cortex visuel. Alors, il se trouve que le cortex visuel primaire se distingue bien du secondaire parce qu'en fait, il est plus épais. Donc là, on voit très bien qu'il y a quelque chose de différent entre ce côté-là et ce côté-là. Hein. Je pense que vous le voyez aussi bien que moi. Mais là, vous voyez, Brodmann a indiqué une séparation et il faudrait être bien malin pour voir la différence entre là et là. Hein. Et pourtant, là, vous avez l'air sensorielle, ici, motrice, pardon, vous voyez ici. Alors, représentation motrice de l'homonculus, là, c'est un je ne sais pas quel animal c'est, ça, c'est probablement une souris, un truc comme ça. Bon. Non, ce n'est pas une souris, non, parce que la souris, on verrait que le museau, donc peut-être un petit singe, voilà. Et là, vous avez l'air sensorielle, donc ça, c'est les représentations homonculus sensorielles. Là, c'est l'homonculus moteur, et c'est vrai. Mais c'est vrai que si vous essayez de distinguer les deux par des critères purement architectoniques, vous n'en seriez probablement pas capable. Il se trouve que Brennan, lui, en a été capable, donc c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté, et je comprends que certains aient pu s'y prendre. Donc aujourd'hui, deux commentaires. Hein. Le premier commentaire, c'est que c'est Brennan qui a raison sur le fond. Aujourd'hui, on le sait, grâce à la génétique, à l'expression de différents gènes de développement, grâce surtout à l'imagerie cérébrale qui permet, entre guillemets, de voir l'activation d'aires spécialisées. Mais cette compartimentation fonctionnelle et génétique ne se voit pas ou se voit mal sur le plan anatomique ou seulement dans des cas très particuliers comme celui des aires visuelles primaires que je viens de vous montrer ici. C'est un fait tout à fait intéressant, c'est quelque chose de tout à fait intéressant dans la construction du cortex, que cette contradiction apparente entre une homogénéité architectonique, c'est homogène, et en même temps une compartimentation génétique et fonctionnelle. D'ailleurs, ça pose la question sur laquelle je reviendrai, je pense, du rapport entre la compartimentation génétique et la compartimentation fonctionnelle. Parce que je peux très bien faire une carte d'expression de gènes de développement dans le cortex qui va me faire des compartiments. De l'autre côté, je peux me faire une carte de la compartimentation fonctionnelle, aires visuelles primaires, aires secondaires, etc. Mais rien ne me dit aujourd'hui comment s'établit cette correspondance. Est-ce que c'est la même carte qui se développe? Est-ce que le génétique détermine le fonctionnel? C'est une vraie question et je ne crois pas que qui que ce soit aujourd'hui ait pu y répondre de façon extrêmement sérieuse. Donc c'est intéressant, mais c'est si je regarde regardez ici par exemple c'est un sapiens à droite et là c'est un macaque, un sapiens à gauche, un macaque à droite. Bon, c'est l'échelle a été gonflée parce que les macaques, vous allez voir, ont un tout petit cerveau. Mais quand on les met à la même échelle, on voit que bon, il y a quand même plus de circonvolution chez sapiens. Et puis, vous voyez qu'il y a une conservation quand même. Hein, vous voyez ici, dans l'aire 3B, c'est un récepteur muscarinique de type M2. Donc, vous voyez qu'on voit quand même une bonne conservation entre l'homme et le chimpanzé, à la fois sur la région et sur les couches dans lesquelles sont exprimés ces récepteurs. Donc, les zones d'expression de ces récepteurs cholinergiques muscariniques sont les mêmes. Mais il y a évidemment des différences anatomiques évidentes entre les deux animaux. Mais cette conservation, il faut la distinguer là. Et vous voyez, en 3B, ce sont les aires somatosensorielles. C'est S1, ce que je vous montrais tout à l'heure, avec ce que je prenais pour un rat qui était probablement un singe. Donc, cette extraordinaire, il faut bien dire, homogénéité de la structure corticale est d'un grand intérêt physiologique, évolutif et développemental. Parce que si les différentes aires sont semblables, voire identiques, sur le plan de leur composition cellulaire, de la forme des cellules, etc., la question c'est de comment est-ce qu'elles se spécialisent au cours du développement. Comment tout d'un coup j'ai un bord qui dit ben, là vous avez du l'auditif, là vous avez du visuel, etc. Et pour ce qui est de l'évolution, cette identité est favorable, à mon avis, on peut le penser, à des modifications du nombre des aires, coupure d'une aire en deux, par exemple, ou fusion de deux aires, et la position des bords entre les aires, c'est-à-dire que si les aires sont identiques, je peux plus facilement déplacer les bords. Et donc, agrandir une aire au dépend d'une autre qui sera avoisinante, c'est-à-dire changer le plan du cerveau. On doit même envisager, et vous allez voir que c'est vrai, que selon les individus, cette fois, au sein d'une même espèce, entre deux voisins sur deux sièges ici, eh bien, la taille des aires ne soit pas la même. C'est-à-dire que pour une même fonction, il y ait des aires qui soient de taille variable. Et ça, c'est le cas. Et c'est en effet effectivement le cas. Alors, soit parce que c'est génétique, soit du fait d'une stochastique du développement, parce que, évidemment, le développement n'est pas quelque chose de totalement robuste. Hein. C'est pour ça qu'il y a, on peut penser qu'il y a des maladies qui sont liées au développement. Le développement, ce n'est pas un programme absolument impeccable. Hein. Ça bave sur les bords. Donc, entre chaque individu, eh bien, même à génome identique, on n'a pas forcément, dès l'origine, le même cerveau. Et si vous voulez, cela est assez bien illustré là. Voyez. Voilà ici, on va prendre simplement les aires visuelles. Hein. Vous avez ici les aires visuelles. Vous voyez qu'en rouge, c'est ce qu'il y a de plus probable, c'est-à-dire c'est ce qui est le noyau dur des aires visuelles, ce qu'on a tous entre nous. Mais vous voyez qu'autour, hein, vous avez du jaune et du vert, c'est les zones qui peuvent être variables entre individus. C'est-à-dire que d'un individu à l'autre, on peut avoir des aires qui passent du simple au double. Donc on n'a pas le même cerveau. Alors, c'est sûr qu'il y a des régions du cerveau qui permettent plus de variabilité que d'autres, j'imagine, bien que personnellement, je n'ai jamais été regardé. Mais il faut aussi réaliser, comprendre une chose, c'est que si vous agrandissez énormément une de ces aires, comme le cerveau garde une taille constante, eh bien, c'est que vous allez diminuer l'aire d'à côté. Donc, il y a une sorte de bataille, si vous voulez, aux frontières entre les différentes aires pour certaines modalités. Et au cours du développement, eh bien, ça se produit. Et ça peut avoir des... Normalement, tout se passe bien. Hein. Mais des fois, ça se passe moins bien. Voilà, quoi. C'est la vie, comme dit von Goethe. Donc, ça, en même temps, c'est quand même sympa parce que si le cortex était spécifié génétiquement pour chaque fonction, ça ne pourrait jamais bouger. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas évoluer. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Donc, c'est ce fait qu'on ait une sorte de cortex comme ça qui soit extrêmement homogène donne une une certaine flexibilité à notre possibilité d'évoluer, c'est-à-dire l'évolution des espèces. Peut-être aussi des variabilités, des variations interindividuelles. Donc, bouger un bord, parce que donc c'est quand même une vraie question, bouger un bord correspond à une modification physiologique, donc bon, c'est pas trop grave, ou à une anomalie pathologique, si le changement excède hein, ce qui entre dans l'ordre de la normalité. En effet, c'est comme je vous le disais, si pour certaines aires, on peut admettre que de grandes variations sont acceptables, ce n'est peut-être pas le cas pour d'autres types d'aires. Voilà. Sur le plan évolutif, nous avons évidemment agrandi la taille du cerveau. Nous avons un très grand cerveau, mais nous avons aussi déplacé les bords. Hein. Alors, voyez ici la taille d'un cerveau de souris, ça c'est à l'échelle. Hein. Voici la taille d'un cerveau humain. Donc, vous voyez que quand on prend la souris comme modèle, y a quand même, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Hein. Ça, c'est un macaque, c'est pas énorme. Et là, vous voyez, j'ai mis à la même échelle un lémurien, hein, une espèce de petit primate, et puis un sapiens. Et vous voyez que quand on met à la même échelle, on reconnaît évidemment certaines des on voit les sept, voilà, on les reconnaît. Mais on voit aussi qu'il y a des grands changements. Et vous voyez, par exemple, proportionnellement, les aires visuelles d'un lémur sont très très supérieures aux aires visuelles d'un sapiens. Je ne parle même pas des aires olfactives, je veux dire, on est ridicule au niveau des aires olfactives. Mais on a gagné par ailleurs. Hein. Vous voyez que les aires ici, qui sont les aires de Broca et de Wernicke, que vous allez voir par ici, sont inexistantes chez le lémurien. Donc, on augmente la taille hein, du cortex, nous avons 2 mètres carrés de cortex. Mais en même temps, à l'intérieur de cette augmentation de taille, eh bien, on a fait bouger les bords, et on n'aurait pas pu faire bouger les bords s'il n'y avait pas une homogénéité, si vous voulez, du patron de base, bien entendu. Donc, cette homogénéité architectonique a un gros avantage si on pense à la possibilité évolutive qu'elle donne. Hein. Donc, en comparaison avec un chimpanzé, alors vous voyez ici, ça c'est un cerveau de chimpanzé, ce n'est pas une troglodytes, donc c'est le bonobo, hein, c'est notre cousin germain. Bon, cousin germain, ça fait 6 à 7 millions d'années quand même. Enfin, 6 dans un sens et 6 dans l'autre, ça fait 12. Il faut faire les deux branches de l'évolution quand même. Et ça, c'est un cerveau de sapiens. Là, ça c'est mal fichu. Mais enfin, ce que vous voyez, c'est qu'il y a normalement, chez les primates, une loi de proportionnalité entre la taille du corps et la taille du cerveau. Et ça, c'est quelque chose de relativement normal dans la mesure où un cerveau, ça sert avant tout à bouger. Hein. Donc, l'essentiel du cerveau, c'est quelque chose de sensorimoteur qui permet de savoir là où il y a la nourriture, là où il y a les ennemis, là où il y a les mâles ou les femelles. Pour s'en approcher, s'en éloigner, j'en sais rien. Mais... Donc, c'est normal que le cerveau soit plus ou moins proportionnel. Mais dès que vous passez, vous voyez, dans le genre homo, hein, nous sortons de l'épure. Hein. Vous voyez, entre Lucie ou Toumaï, 300 à 400 cm3 pour une taille de 1m10, on passe à Sapiens, on a multiplié le cerveau par un facteur 4 ou 5, et la taille par un facteur 1,2-1,3. C'est-à-dire que nous avons, j'ai l'habitude de dire, nous avons 900 cm3 de trop. Hein. Et ces 900 cm3 de trop, ils ne sont pas distribués n'importe comment, puisqu'en même temps, on a perdu certaines aires pour en augmenter d'autres. Donc, en fait, non seulement on a augmenté la taille du cerveau, mais on a ajouté des aires, on a augmenté des aires qui sont des aires très particulières, qui sont des aires qui nous sont spécifiques malgré tout. Et quand on pense maladies spécifiquement humaines, ce sont des questions qui, évidemment, sont importantes. Alors, à l'intérieur de cette augmentation générale, on a perdu de la surface relativement pour certaines aires, mais on en a gagné pour d'autres, le cortex préfrontal, toutes les aires qui sont dévouées aux performances linguistiques ou cognitives. Et les mécanismes qui sont mis en cause, on va y venir, ils peuvent reposer sur plusieurs choses. Hein, une régulation différente de la mort des cellules, de la prolifération des cellules pour chaque aire, en devenir. Mais aussi, on peut faire intervenir un phénomène du genre déplacement des bords. Voilà, je diminue la salle de bain et j'augmente la salle à manger. Voilà. Donc, et là, il y a des stratégies génétiques pour ça, sur lesquelles, bien évidemment, je vais discuter. Donc, c'est évident que si chaque aire avait une structure spécifiquement adaptée à sa fonction, le système serait pratiquement totalement déterminé, et cesserait d'être adaptatif, alors qu'un substrat aussi ubiquitaire que celui-là permet une grande plasticité, à la fois évolutive et développementale. Même si le pattern génétique de départ met des bornes à une indifférenciation généralisée. Donc nous avons là, c'est ni le concept de tabula rasa sur lequel l'expérience sensorielle viendrait inscrire quelque chose, donc qui attendrait des instructions de l'extérieur pour se construire, mais ce n'est pas non plus, donc ce n'est pas une cire vierge, mais ce n'est pas non plus une structure totalement rigide, non modifiable par les informations externes. C'est un compromis, si vous voulez, entre ces deux stratégies. Alors, je précise juste que par information externe, pour moi, c'est le spectre extrêmement large de toutes les informations, qu'elles soient sensorielles, affectives, venues de l'environnement ou de l'individu lui-même, hein, parce que ce qui vient de nous et même du cerveau est externe pour le cerveau d'une certaine façon. Donc, sur une base génétique donnée, toutes ces informations contribuent à la construction précoce de l'individu et pour sa construction tardive, son individuation. Nous en parlerons un peu plus tard dans le cours. Donc je vais revenir pour un instant sur les mécanismes de formation des bords en prenant pour base de départ cet article de Kecker et Loomsden, qui est un article déjà assez ancien, mais qui est un article qui est une bonne base de départ. C'est un article de 2005 qui a été publié dans Nature Reviews Neuroscience. Je précise que de nouveau, je mettrai à la disposition de ceux qui le veulent toutes les données bibliographiques et le texte du cours, si ça les intéresse. Peut-être pas au début, mais vers la fin ou vers le milieu du cours. Donc, dans cet article, ce qui m'intéresse d'abord, c'est, si vous voulez, la notion de morphogène et le rôle de ces molécules dans la définition de la position et de la taille des compartiments. Donc, dans cette diapositive, j'illustre le modèle de Loomsden. On voit que dans un champ initial, alors là, imaginez là un bout de cortex, hein, là c'est un échiquier, c'est 8 sur 8, c'est 64 cellules, il y a un gradient qui s'est mis en place, qui est ce truc jaune là, qui est un morphogène, donc une molécule qui est synthétisée ici, puis qui diffuse, et donc dont la concentration va diminuer en fonction de la diffusion. Et ça, c'est en accord avec le modèle classique que j'ai déjà critiqué une fois du drapeau français de Louise Volpert. Donc c'est le modèle dans lequel j'ai une source, j'ai un puits, j'ai un gradient, j'ai mes cellules qui sont là disposées le long du gradient, et puis j'ai des effets seuils, c'est-à-dire qu'en fonction des seuils, eh bien mes cellules vont adopter un programme génétique différent, c'est-à-dire 1 et 2 vont être bleus, 3 et 4 vont être blancs, et 5 et 6 vont être rouges, d'où l'idée du modèle du drapeau français qu'avait proposé Louise Volpert. Bon, c'est un modèle que j'aime pas du tout, il est à la fois simpliste, il a un effet d'entraînement, il a eu un effet d'entraînement pas toujours positif, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, j'y reviendrai plus tard probablement. L'année dernière, il y a 2 ou 3 ans, je vous en avais pas mal parlé pour ceux d'entre vous de nouveau qui étaient là. Mais j'essaie de revenir un petit peu sur les choses pour que ceux d'entre vous qui n'étaient pas là puissent aller regarder sur le site. Je pense que tout est plus ou moins sur le site. Ou me poser des questions s'ils en ont envie. Hein. Donc ce morphogène qui diffuse dans ce champ de 64 cellules agit comme un morphogène à la Volpert, si vous voulez, et puis crée donc des cellules qui vont exprimer les gènes bleus et des cellules qui vont exprimer les gènes rouges. Hein. Et vous voyez que, comme c'est un gradient, il y a des endroits où ce n'est pas clair, quoi, c'est ni rouge ni bleu. Et selon un modèle qui, ce coup-ci, est adapté de Turing, le rouge s'auto-active, le bleu s'auto-active, mais le rouge inhibe le bleu et le bleu inhibe le rouge, ce qui fait qu'à partir d'une certaine différence de concentration entre les deux, comme on dit, le winner takes all. C'est-à-dire que celui qui est le plus élevé s'auto-active mais réprime l'autre, c'est-à-dire que je deviens tout rouge ou tout bleu, je n'ai plus le choix. Et du coup, au bout d'un certain temps, par ce mécanisme de répression réciproque, je vais avoir que des rouges et du bleu. Puis alors, peut-être que ceux qui sont mal placés vont mourir, ou bien ils vont se redéplacer, ou bien ils vont être reprogrammés parce qu'ils sont isolés dans le bleu, et puis je finis par faire un bord. Et ça, c'est un modèle qui est un modèle hyper classique que Andrew a résumé dans cet article. Ce qui est aussi important dans ce modèle et qui est intéressant, c'est que c'est au bord, au niveau des bords, qu'on a des sources de morphogènes. C'est-à-dire que le plus souvent, quand vous avez un bord, de part et d'autre du bord, vous avez la synthèse de molécules qui elles-mêmes servent de morphogènes. C'est-à-dire que maintenant, on peut recommencer, ce truc vert là qui est un morphogène va rediffuser, puis va aller faire le même coup que celui-là, mais entre-temps ça a proliféré, donc vous avez augmenté le champ, donc vous avez comme ça des emboîtements de bords et des emboîtements de morphogènes qui vont vous allez pouvoir segmenter petit à petit votre cortex au fur et à mesure, votre plan hein, ici, au fur et à mesure grandit. Et puis bon, après vous aurez des croissances axonales, des choses comme ça, je ne pense pas que j'aurai le temps d'en parler cette année, mais je ne suis pas sûr. Comme vous voyez, je n'ai pas entièrement déterminé le plan total du cours. D'ailleurs, je ne suivrai sûrement pas le plan qui est indiqué sur l'affichette. Non, parce que pour avoir le droit à une affichette, il faut donner un plan. Mais au moment où on a fini d'écrire le cours, de le penser, le plan est obsolète, parce que sinon, ça ne serait pas la peine de travailler. Mais donc, ne vous fiez pas à ce qui est écrit sur l'affichette. Vous venez si vous voulez et vous entendrez quelque chose. Voilà. Donc, bon, vous venez. Voilà. Bon, donc en plus, je peux très bien changer d'avis du jour au lendemain et d'essayer de faire un cours sur autre chose. Dans ce schéma, les cellules vertes sont des cellules qui sécrètent de nouveaux morphogènes. Donc, si on voulait bien accepter l'idée, je vais y venir, et ça, c'est très important pour moi et pour les gens qui travaillent avec moi et avec qui je travaille. Que ces choses rouges et bleues sont aussi des morphogènes, c'est-à-dire que ce sont des facteurs de transcription peut-être, c'est-à-dire que ce sont des cellules, mais qui sont capables d'en sortir, alors le développement va se lire, si vous voulez, comme l'expression emboîtée de morphogènes que je rappellerai des morphogènes primaires, comme ce type en orange là, et de morphogènes secondaires, comme les deux rouges et bleus, puis de morphogènes tertiaires, comme le vert. Donc vous avez cet emboîtement qui accompagne le développement, et qui est relativement simple à comprendre à chaque étape, mais à la fin, ça devient très compliqué. C'est pour ça que C'est comme le pistolet mitrailleur, on ne peut pas démonter le cerveau pour comprendre comment ça fonctionne, on ne peut surtout pas le remonter. En revanche, on peut essayer de comprendre la logique de son développement et se persuader, et là c'est peut-être un vœu, que la logique du développement a quelque chose à voir avec la logique du fonctionnement du système nerveux, ce qui est mon opinion. Donc, on conçoit aussi tout de suite que s'il y a des accros qui se produisent dans l'initiation, la durée, le niveau d'expression de n'importe lequel de ces morphogènes emboîtés, eh bien ça va avoir des conséquences à tous les niveaux qui vont suivre du processus développemental. Et donc, au bout du compte, l'animal peut être mal terminé. Et si l'animal est mal terminé, ça peut se terminer mal. Voilà. Dans les années 2006-2007, avec le mathématicien David Lockman à l'École normale, nous avons modélisé ces fluctuations sur le positionnement des bords. Donc, je repasse sur. Pourquoi je suis passé à cette diapositive directement ? On a modélisé des fluctuations sur la position des bords. Donc, ce que je veux dire, c'est que le bord, il ne se met pas toujours mécaniquement au même endroit. C'est-à-dire qu'il peut avoir une fluctuation de l'endroit où il se met. Et ça, c'est évidemment important. Et la robustesse, évidemment, de ce positionnement est quelque chose qui est intéressant. Donc, on l'a modélisé en partant d'une hypothèse qui s'inscrit complètement dans le schéma du papier précédent, mais qui ajoute une activité morphologique non autonome, c'est-à-dire à ces facteurs de transcription, ici, je veux dire, qui ne sont plus dans la cellule, mais ils sont capables d'en sortir. Pour passer dans la cellule d'à côté, elle est inhibée, ce qui se passe dans la cellule de côté, ou modifier ce qui se passe dans la cellule d'à côté. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, dans notre hypothèse, qui est fondée sur quelques expériences, ces facteurs de transcription sont donc des morphogènes de plein droit. Et nous partons de deux constatations. La première est que, en accord avec la définition de Turing des morphogènes, les facteurs de transcription bleu et rouge sont auto-activateurs et inhibiteurs réciproques. La deuxième, c'est qu'ils sont capables de passer de cellule à cellule comme s'il n'y avait pas de membrane. D'accord ? Et ça, c'est toujours en accord avec la simplification proposée par Turing dans son fameux article de 1952, les bases chimiques de la morphogénèse, que je vous invite à lire parce que ça reste un papier absolument fondamental pour tous les gens qui s'intéressent aux phénomènes morphogénétiques. Évidemment, l'idéal pour Turing, il le dit, l'idéal, ce serait que les gènes eux-mêmes soient des morphogènes. Alors évidemment, ça c'est impensable parce qu'un gène, ça ne diffuse pas, bien entendu. Mais il dit oui, c'est pas possible parce que they are quite indiffusible. Hein. Mais si vous imaginez, c'est seulement par courtoisie, alors, j'adore le style de Turing, mais si vous imaginez que le gène encode une protéine qui va passer dans la cellule de la codée et activer sa propre transcription, c'est-à-dire allumer son propre gène dans la cellule d'à côté, tout se passe comme si le gène diffusait. Puisque, au fur et à mesure que ma protéine va passer de cellule à cellule, elle va activer, elle va ouvrir son propre gène, il va rester actif, et il va marquer le territoire, c'est-à-dire qu'au début, j'avais bleu la première rangée de cellules, ça passe à la deuxième devient bleue, et c'est fixé épigénétiquement, je passe dans la troisième, ça devient bleu, et petit à petit, j'ai une vague, et en fait, qu'est-ce qui diffuse ? C'est la protéine, mais en même temps, qu'est-ce qui diffuse ? C'est le gène, d'une certaine façon. Donc, tout se passe dans ce modèle comme si le gène diffusait. Évidemment, quand j'ai lu Turing, après avoir fait des expériences dans le laboratoire qui démontrait cette affaire, ça m'a un peu secoué, parce qu'on croit toujours qu'on a découvert quelque chose, et puis, finalement, c'est qu'un type qui est mort en 54, il avait déjà vu le truc... ça fait quand même plaisir, mais bon. Donc, c'est sur cette base qu'on va modifier le schéma de Lunzen légèrement, en proposant que dans la région limitrophe, ces facteurs passent entre cellules. Et ce n'est pas une différence qui est très importante, bien entendu, sauf que, évidemment, le facteur de transcription devient un morphogène de plein droit. Mais on peut aller plus loin, bien entendu, on peut aller plus loin, et c'est là que ça change quand même pas mal de choses au schéma, en s'imaginant que j'ai un inducteur à chaque côté de mes deux champs, et que ma protéine va passer de cellule en cellule, et donc induire sa propre transcription entre chaque cellule, et donc envahir le territoire, marquer le territoire. Et puis, à un moment, il y a les verts qui arrivent d'un côté, il y a les rouges qui arrivent de l'autre, et ils se rencontrent quelque part au milieu. Hein. Et là, eh bien, il y a une guerre de position qui va commencer à s'établir, c'est-à-dire qui va gagner, hein. Dans les deux cas, il faut bien admettre que le winner takes all, puisqu'ils ont ces propriétés d'être inhibiteurs réciproques et auto-activateurs. Donc, ce sont des protéines infectieuses, dans ce cas-là, qui marquent un territoire, et on voit bien que tout se passe comme si hein, les gènes qui codent pour HA et HB, en l'occurrence des homoprotéines, étaient diffusibles. Donc, ce lieu de rencontre, qui est aussi un lieu d'une guerre de position, est le lieu où ça se passe, où je forme mon bord, d'accord ? Donc, il y a plusieurs arguments qui plaident très fortement en faveur du modèle que nous avons proposé. Le premier, c'est évidemment que ces facteurs de transcription jouent un rôle très essentiel dans la diffusion des bords, vous allez le voir, qu'ils sont diffusibles, je n'y reviens pas, et je vous renvoie aux travaux publiés par mes collègues dans mon laboratoire. Diffusible ne signifie pas qu'ils s'auto-induisent de façon, comme on dit, non autonome, c'est-à-dire qu'ils induisent dans la cellule d'à côté. Donc pour ça, il faut bloquer la protéine à l'extérieur au tout début de son action infectieuse et montrer que cela diminue l'air marqué. Alors vous voyez ici, c'est quand j'arrive ici, j'ai un doute, mais c'est celui qui est le plus fortement concentré qui va éteindre l'autre et qui va marquer cette cellule de bord. Et c'est ça qui est évidemment important, comme vous allez le voir, aujourd'hui ou la semaine prochaine. Donc, évidemment, ça a été fait. Et là, vous voyez un système où, au début, vous avez une induction, ensuite, vous avez une extension qu'on appelle l'extension homéogénétique, qui est un truc assez connu. Vous voyez ça ici pour un gène qui est de cette famille, qui s'appelle PAX6, où si vous bloquez, alors voilà, et ça commence, ensuite ça s'étend, donc ça va former le futur territoire de l'œil. Mais si vous bloquez le passage de PAX6 in vivo avec un anticorps que vous exprimez dans un poisson, bien vous voyez que vous allez bloquer l'extension, c'est-à-dire que vous restez dans le domaine initial de l'induction, hein, donc dans le novène où vous aviez le premier inducteur qui avait induit la première synthèse du morphogène. Qu'est-ce qui me fait celui-là ? Les machines sont trop sophistiquées. Donc, et vous voyez que quand vous faites ça, vous bloquez l'extension du domaine PAX6, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un animal qui a un petit œil, parce que vous bloquez le champ œil. Et c'est un phénomène qui est robuste, mais stochastique. Pas si robuste que ça, parce que vous voyez que vous avez une grande variabilité de phénotype. Bon, des fois, ça marche bien d'un côté, mais pas de l'autre. Des fois, votre poisson est complètement aveugle. Des fois, il lui manque un œil. Et ça, c'est un poisson normal. Des fois, il a deux petits yeux, etc. Donc, le fait d'empêcher le morphogène de se promener in vivo modifie le champ morphogénétique, qui est le champ morphogénétique de l'œil. D'accord ? Donc, l'autre chose, c'est que si ces deux facteurs sont de part et d'autre, auto-activateurs, inhibiteurs réciproques, eh bien, ils vont permettre de former des bords. Et là, je vous ai dessiné une diapositive, remis une diapositive que j'ai déjà mise il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je ne sais plus très bien. Et ça, c'est le schéma thuringien. Hein, donc A active A, B active B, B inhibe A et A inhibe B. Et je passe évidemment le bord de ma membrane. Et vous voyez que dans toutes les grandes divisions au niveau du cortex qui va se former, par exemple ici vous avez le palial, subpalial border dont je vous parlerai. Ici vous avez ce qu'on appelle la zona limitans intratalamica. Ici, vous avez la frontière entre diencéphale et mésencéphale. Ici, une frontière très importante pour ce qui est des maladies neurologiques et psychiatriques, qui est la frontière midbrain boundary. Et vous voyez que de chaque côté, vous avez exprimé des facteurs de transcription de cette famille, GBX2, OTX2, NGREL, PAX6, IROQUA3, SIX3, PAX6, GSH2, qui ont ces propriétés auto-activatrices et inhibitrices réciproques. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que chacun de ces bords ici positionnés est positionné par ce processus de type morphogénétique sur lequel j'ai perdu un petit peu de temps. Je crois que c'était nécessaire de perdre un petit peu de temps parce que, d'abord, le premier cours, je suis toujours un peu lent. Le deuxième aussi, d'ailleurs. Mais surtout le premier. Mais je voulais quand même dresser un petit peu le tableau. Donc, la semaine prochaine, on va rentrer dans des détails un tout petit peu plus difficiles, probablement. La question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes fatigué ou est-ce qu'on donne encore 5 minutes ou est-ce que... Ouais, parce que vous êtes venu jusque-là, quand même. Hein. Donc... Puis il a fallu changer de salle, donc on a perdu 5 minutes. Donc je vais donner 5 minutes. Voilà un exemple ici, qui est un exemple très classique, qui est l'exemple du patterning. On va faire jusqu'à 6h10, 6h15, d'accord ? L'année prochaine, je ferai 1h30, et puis ça me fera 6 séances, c'est quand même mieux pour moi. Donc, l'exemple du patterning dorso-ventral du tube nerveux. Hein, alors, parce que là, je vous ai montré dans la diapo précédente un patterning antéro-postérieur. Ça, c'est l'avant du cerveau et ça, c'est l'arrière du cerveau. Mais il n'y a pas que l'avant et l'arrière, il y a aussi le dessus-dessous, hein, donc le dorso-ventral. Et comme c'est un plan, hein, il s'agit pas, c'est pas de l'épaisseur, hein, je ne vais pas vous remettre ça. Comme c'est un plan, le ventral est au centre, le dorsal est sur les côtés. Quand ça se replie, c'est comme ça. Donc ça, c'est ventral et ça, c'est dorsal. Et puis, par la pensée, réclinez les deux bords et faites un plan. Donc, ce que vous avez ici, ce sont des morphogènes primaires. Vous avez Sonic Hedgehog qui est en ventral, qui est sécrété par ce qu'on appelle la notochorde, puis par ce qu'on appelle la plaque du plancher, la floor plate. Ici, vous avez en dorsale des morphogènes qui sont des bone morphogenetic protéines, BMPs, et ils diffusent. Hein, c'est l'équivalent, si vous voulez, du truc de Loomsden, là. C'est ça. Ah, zut. C'est ça. Donc, et puis, dans le champ, vous avez évidemment toutes les cellules, hein, qui vont prendre des couleurs différentes. Tout à l'heure, il n'y avait que rouge et bleu, c'était pour simplifier. Mais là, vous avez sous l'action de ce morphogène dorsal des cellules qui vont exprimer des facteurs de transcription de différentes couleurs. Hein, regardez ici, par exemple, Sonic Hedgehog va induire la formation de NKX2.2. Et puis, les BMP vont induire la formation de PAX6. Et vous voyez qu'il y a un flou au bord. Hein. Et puis, avec le temps, grâce à l'inhibition réciproque des facteurs de classe 1 et de classe 2, vous allez avoir un bord net qui va se former. Ça, c'est un papier de Briscoe, qui est aussi un papier qui n'est pas entièrement neuf. Hein. Donc, si vous inhibez... Alors, si vous avez l'idée que par exemple, le PAX6 extracellulaire qui va passer dans le domaine NKX2.2 va inhiber NKX2.2. Si vous bloquez le passage de PAX6, vous devez vous attendre à avoir une augmentation du domaine NKX2.2, c'est-à-dire déplacer votre bord. Donc là, c'est une manip, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas encore définitive, elle sera refaite, mais qui a été faite par Elisabeth Dululo et Céline Hatton dans le laboratoire, où elles ont bloqué, si vous voulez, PAX6 extracellulaire en induisant l'expression d'un anticorps extracellulaire contre PAX6. Vous voyez que ce qui se passe, c'est que si vous êtes une hybridation in situ contre PAX6, vous voyez que le domaine PAX6 diminue, mais que NKX2.2 a pris le dessus sur PAX6. C'est-à-dire qu'en bloquant le passage de votre protéine, vous êtes capable de déplacer vos bords. Donc ça veut dire qu'au cours du développement, comme au cours de l'évolution, la position d'un bord n'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre. Ça va dépendre un tout petit peu des fluctuations de voyage de vos morphogènes. Et donc, il y a un certain danger à se développer. Ouais, mais si on ne se développe pas... Ah, là, vous voyez, par exemple, que Engrel, lui, il s'en fiche complètement. Donc, on peut modéliser ces fluctuations, et ça, je vous dis, c'est ce qu'on a fait avec David il y a 2-3 ans. Vous voyez très mal ici, je suis désolé, peut-être un peu trop fort le rétroprojecteur. J'ai l'habitude de rétroprojecteur un peu mollasson, donc bon... Mais ce que vous ne voyez pas ici, c'est qu'on a introduit une fluctuation de passage de cellule à cellule, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ce n'est pas mécanique. Hein, y a des molécules qui se perdent, il y a des membranes qui pètent, c'est vivant, quoi. C'est pas des machines. Et donc, vous pouvez introduire une fluctuation à chaque étape, dans la fusion des vésicules, dans l'efficacité de libération, etc. Et puis, regardez les conséquences que ça va avoir sur la positionnement de votre bord. Donc, si vous introduisez simplement 1% de fluctuation à chaque niveau, ici, vous allez bouger votre bord sur 100 cellules d'environ 3 ou 4. Ben, c'est pas mal quand même, 3 ou 4% de fluctuation au bord pour 1% de fluctuation au niveau du passage. Ça veut dire que s'il y a plus que 1%, vous êtes quand même capable de pas mal bouger le bord. L'autre chose, c'est que vous pouvez avoir au départ un accident, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce morphogène ici primaire qui induit X qui va induire A ou Y qui induit B, eh bien, au lieu d'être exprimé au même niveau, tout d'un coup, pour une raison X, Y ou Z, il y en a un qui va être exprimé moins bien que l'autre. Je ne sais pas, il y a eu la grippe, un truc, ça, mauvais moment. Donc ça va avoir des conséquences importantes aussi sur la position du bord. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un accident génétique. Ça peut très bien être un accident au cours du développement, au cours de l'embryogenèse, ben voilà, quoi, varicelle, j'en sais rien, moi. Simplement une contrariété peut arriver. Donc, et ça va avoir des conséquences possibles sur la position du bord. Donc ça se modélise, je ne dis pas que ça se passe comme ça, mais je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir et sur lesquelles nous réfléchirons la semaine prochaine. En repartant de ce tableau, parce qu'on va prendre un peu de temps pour discuter, vous voyez ici par exemple, et vous verrez les détails la semaine prochaine, c'est juste que je repartirai de cette diapositive lundi prochain. Vous voyez ici, par exemple, deux gènes de développement, un qui s'appelle EMX2 et l'autre qui s'appelle PAC6, small i, et quand ils sont exprimés normalement, aussi les aires sensorielles primaires, hein, vous rappelez le petit bonhomme, le petit singe, la petite souris, je ne sais pas, les aires motrices primaires dans votre cerveau, à la surface de votre cortex, et les aires visuelles primaires, que j'ai déjà introduites à plusieurs fois. Eh bien, quand vous retirez EMX2 ou simplement un allèle de EMX2, qu'est-ce qui se passe ? Vos aires sensorielles primaires augmentent, vos aires motrices primaires augmentent, mais vos aires visuelles diminuent. Et si vous retirez un allèle de PAC6, vos aires visuelles augmentent, vos aires sensorielles et motrices diminuent. C'est-à-dire que vous avez une guerre qui se fait au bord qui fait qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre. Mais la taille totale du cortex ne bouge pas. C'est-à-dire que je travaille à surface égale. Mais à l'intérieur de l'appartement, eh bien, j'ai diminué la salle à manger, j'ai augmenté la cuisine. Et ces animaux peuvent aller jusqu'à maturité. Hein. Vous allez voir la semaine prochaine qu'on peut comme ça bouger le rebord entre le métencéphale et le métencéphale avec des conséquences qui sont extrêmement importantes sur le plan du comportement de l'animal. Donc j'en reste là pour aujourd'hui. Je peux prendre des questions, hein, je ne suis pas pressé. Vous peut-être, je ne sais pas, mais et je vous donne rendez-vous peut-être à la semaine prochaine, si vous n'êtes pas trop dégoûté. Voilà, merci.